C'est une discussion en aparté, c'est en attendant de commencer, mais c'est anecdotique et peut-être sérieux. Le sérieux, ça serait ça. Vous voyez des images qu'on présente à des enfants de fin de cours préparatoire. On leur explique que c'est une marche, là, parce que le dessin n'est pas super lisible. Et que donc ça raconte une histoire, hein, d'accord, oui, cette histoire-là. Et que cette histoire, ils vont donc devoir la rédiger tout seuls. Donc mon exemple fait suite à une discussion en aparté, puisque je vais évoquer des points un peu éclatés, mais suite à des réactions sur des choses de la journée. Là, la question, c'est les maîtres manquent d'outils, et ils manquent d'outils pour enseigner, ils manquent d'outils pour évaluer. Et manque d'outils pour évaluer notamment l'avancée des progrès de leurs élèves dans les apprentissages, pas simplement des évaluations sommatives, terminales, pour faire des comparaisons, mais aussi pour penser. Mais sur la production écrite, les maîtres nous disent beaucoup qu'ils ne savent pas du tout comment évaluer. Du tout, j'exagère. Mal évaluer. Donc là, la discussion en aparté, c'était de dire, ben oui, dans la recherche co-préparatoire dont Patrick parlait tout à l'heure et dont j'ai dit deux mots, on s'est trouvé devant cette question-là, c'est comment on évalue les compétences d'écriture des élèves à la fin du cours préparatoire. On les a évalués avec une tâche en gros de dictée, on les a évalués avec une tâche de copie différée, pour voir quelle était l'empante copie des enfants, le nombre de fois où ils devaient reprendre de l'information sur le message qui se cachait à chaque fois, et comment ils transportaient cette information, qui est une information extrêmement, comment dire, pertinente sur ces compétences-là. Au passage, compétences qui, lorsque vous savez que vous allez regarder vos élèves avec cette lunette-là, vous conduisent à vous dire, mais au fait, oui, est-ce que je leur ai appris à copier ? Alors, est-ce que je les ai fait copier ? Ça, oui, sans doute, beaucoup. Mais est-ce que je les ai rendus stratégiques ? Vous voyez la question de comment les rendre autonomes, comment les rendre autorégulés, quelqu'un nous disait tout à l'heure. Moi, ma réponse, elle est claire, hein. Ils vont être régulés domaine d'activité par domaine d'activité. Je ne crois pas à une grande compétence générale à l'autorégulation. Vous êtes autorégulé, vous ? Ça dépend des domaines. Voilà, ça dépend des domaines. Voilà. Donc, ça dépend des domaines, pour moi, c'est l'essentiel de la réponse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des analogies entre des modalités de régulation dans des sous-domaines qui, après, je veux dire, font système. Mais je ne sais pas enseigner des compétences métacognitives très générales. Je ne sais que monter en prise de conscience sur des habiletés élémentaires locales, disciplinaires. Et quand je dis « je », ce n'est pas « je », c'est « nous ». Parce que les données de recherche vont toutes dans ce sens-là. Hein, l'idée qu'on pourrait construire une sorte de méta-habileté qui ensuite se déclinerait vers le spécifique, c'est pas vrai, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. Donc, question sur la copie et question sur la production de texte. Et là, la production de texte, il nous a fallu fabriquer un petit test qui évaluait simplement, il fallait que ça puisse être corrigé par des étudiants de master, donc qui étaient nos évaluateurs. Donc c'est moins compliqué que ce que pourrait faire un instit, sauf que tous les instits nous ont demandé l'outil à la fin de l'année, parce qu'en fait, déjà, il était un point de repère. Ça, c'est pour aller dans le débat avec Simon tout à l'heure, sur à quel moment on est en initial, à quel moment on est en continu. Bien malin qui saurait le dire, parce qu'il y a plein de choses qu'on travaille en initial, qu'on va continuer à travailler tout le long de la carrière. Bon, d'autres qui sont réglés, on n'en parle plus, mais quand même, beaucoup de choses sont remises 100 fois sur le métier, quoi, me semble-t-il. Donc, ça peut donner ce genre de... Oui, j'ai deux écrans sous les yeux, je suis en train de me perdre. Je regarde pas le bon. Ça peut donner des enfants qui écrivent comme ça. Je vais surtout vous montrer tout de suite, pardon, la deuxième écriture, là. Il était une fois une chatte avec plein de bébés, ils dormaient tous, et un chat part... Puis il ne voit pas la marche et il pleure. La chatte se réveille et elle va le chercher. Donc fin de cours préparatoire. Hein, fin de cours préparatoire. Donc six critères d'évaluation. Pourquoi ils ont souri ? Oui, c'était un exemple. Alors, on a 2500 élèves dont on a évalué les compétences très finement en début d'année et en fin d'année individuellement. Donc on publiera tous les résultats, donc vous verrez la répartition. Donc oui, ça fait partie des bonnes productions, on est d'accord. Au passage, ça fait partie des bonnes productions, mais on a des classes dans lesquelles la première activité de production de texte autonome, comme celle-là, avait eu lieu dans la classe de cours préparatoire 15 jours avant. Les maîtres ne savaient pas comment on avait évalué les élèves au début et à la fin de l'année. C'était la seule chose qui était, entre guillemets, secrète. Tout le reste était transparent, mais sur les évaluations élèves, on leur avait dit ça sera la partie qu'on gardera secrète. Donc, ils ne savaient pas comment on allait évaluer, et ils ne savaient pas si on allait évaluer la production de texte. Donc, ils faisaient comme d'habitude. Et le « comme d'habitude » au cours préparatoire aujourd'hui en France, c'est, dans bon nombre de ces cours préparatoires, rien. En termes de production de texte, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de la dictée, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de l'écriture, j'ai pas dit qu'il ne pouvait pas y avoir de la rédaction de phrases. Mais l'idée de pouvoir se mettre devant cette tâche tout seul en 15 minutes pour bon nombre de maîtres, c'est une activité qu'on n'a pas trouvée. Là où les budgets temps, puisqu'on a reconstitué les budgets temps réels de l'activité des élèves pendant l'année, sont les plus contrastés, c'est sur la production écrite. Donc évidemment, c'est pas étonnant. C'est bien là où vous disiez tout à l'heure, c'est une des zones où les gens disent « on ne sait pas bien faire » et donc on espère utiliser le maître plus comme une occasion de faire à deux ce qu'on sait mal faire tout seul. Moi, je pense que c'est une des vertus des maîtres surnuméraires, au passage, et qu'elle n'est peut-être pas négligeable. C'est sans doute pas la seule. C'est plutôt quand on tire du côté de cet accompagnement et de cette formation aussi par les maîtres plus, comme relais, comme un des maillons des dispositifs de formation territoriaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas le penser aussi comme ça? Et l'expertise que vous décriviez précédemment, une expertise acquise, en disant on se casse la tête, on avance, ben oui, mais comment elle va profiter à d'autres? Il y a vraiment cette question de la mutualisation. Donc là, et j'arrête avec mon exemple, on a fait des critères d'évaluation juste sur la longueur du texte produit, en pensant que c'était un des signes qui nous donnait des éléments significatifs, sur la capacité de segmentation. Si vous le voulez, ça je le mettrai sur le site de la même manière. Hein, de la capacité de segmenter la chaîne écrite dans une production autonome des élèves. La lisibilité, le fait que quand on le lisait à haute voix, comme je vous l'ai fait, malgré les fautes d'orthographe, on pouvait reconstituer quelque chose qui était compréhensible ou pas. Le fait que les idées soient séparées, le fait qu'il y ait un certain nombre de quantités d'informations ici, puisqu'on imposait aux enfants le fait de raconter l'histoire que les quatre images mettaient en scène, c'était est-ce que les idées de ce récit illustré sont présentes ou pas présentes dans la production d'écrit. Au passage, vous voyez que si on veut pouvoir évaluer, on n'est pas sur un écrit d'invention du genre « faites ce que vous voulez ». On a déjà pas mal de contraintes qui font qu'on homogénéise un peu les productions pour pouvoir comparer des choses. Et enfin, le fait qu'il y ait ou pas des traces de narration. Allez, je prends un exemple et j'explique mes rubriques. Donc l'exemple, c'est ce « Il était une fois une chatte avec plein de bébés, ils dormaient tous et un chat part, puis il ne voit pas la marche, il pleure, la chatte se réveille et elle va chercher le bébé ». Ici, longueur du texte, plus de 101 lettres, donc c'était dans notre barème les textes parmi déjà les textes les plus longs. D'accord ? Voilà nos rubriques. La segmentation, est-ce qu'il n'y a rien d'écrit ? Est-ce que c'est une absence de segmentation ? Moins de 50% bien segmenté ? Bien segmenté ou presque, vous conviendrez que ce texte il est bien segmenté sur les blancs intermots en particulier, hein, puisque c'était ça le critère. Lisibilité, ici, il est totalement lisible. On peut le déchiffrer et comprendre ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des séparateurs d'idées? Donc là, c'était présence d'une majuscule, oui. Présence d'un point, oui. Retour à la ligne non imposée par une fin de ligne pour séparer des idées. Ici, il n'y en a pas. Présence au moins d'un connecteur pour séparer des idées. Ici, il y en a. Quantité d'informations. Donc là, on avait repris les idées principales portées par les images. Est-ce qu'elles sont là, pas là? Tout simplement, répertorié. Et est-ce qu'il y a des informations supplémentaires sur des actions, des descriptions, des intentions de personnages, des explications? Donc vous voyez ici, par exemple, il ne voit pas la marche. C'est une information qui n'est pas directement, explicite, qui va être inférée, qui va être rajoutée comme une explication complémentaire. On va donc valider ça. Et est-ce qu'il y a des traces de narration, ici le titre, formule d'ouverture, un temps du passé, une formule de fermeture, une reprise pronominale, vous voyez des indicateurs linguistiques sur ces traces de narration. Et c'est tout. Sauf que le « et c'est tout », ça nous permettait de coder vite une production écrite, et ça permet d'ores et déjà au maître de CP de se dire « ah oui, tiens, mais ça, si c'est à ça que vous faites attention, est-ce que moi, finalement, je leur ai donné les outils au cours de l'année de ça ? Est-ce que ça a été mes cibles ?» Et donc, vous voyez cet effet de retour de l'évaluation vers l'enseignement, au bon sens du terme, dans cette manière de définir et d'aider les maîtres à mieux définir les compétences qui sont visées dans ce processus. Donc il me semble que là-dessus, dans l'accompagnement des équipes, puisque je reste dans la logique de former des maîtres, former, accompagner les équipes dans ce dispositif de formation, il me semble qu'une des demandes qui est faite aux équipes de circonscription, c'est ça, c'est de produire un certain nombre d'outils ou de mutualiser les outils qui existent, de manière à ce que ça puisse aussi donner des points de repère pour l'action des maîtres. Et au passage, on va aller un cran plus loin, puisque l'équipe donc on a réuni pour fabriquer cette recherche, et notamment cet outil, prolongeant son travail, va faire un certain nombre de propositions, notamment dans la logique plus de maîtres que de classe, autour de gens que vous connaissez, Yves Soulet à Montpellier, Bernadette Kervin à Bordeaux, Catherine Brissot à Grenoble. Voilà, ils vont sortir un petit document opérationnel sur alors comment réfléchir à ces choses-là quand on est dans notamment un dispositif plus de maîtres que de classe. Parce que justement, on a de magnifiques exemples qu'on est en train d'analyser et qu'on voudrait essayer un peu de théoriser, qui sont des expériences heureuses, des expériences réussies de co-intervention autour de cette activité de production écrite qu'on voit effectivement comme une des priorités qu'on a rencontrées partout, avec des gens qui tâtonnent. Et pour moi, là, c'est pour ça que je disais que c'est un enjeu pour le collectif, et c'est presque pour l'intercession, hein, Patrick, que j'évoque cette idée-là. Il me semble qu'il nous faut à la fois avoir des exemples toujours singuliers, mais avoir ce souci d'une montée en généralité. C'est au fond, qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est mis à deux pour faire de la production de texte ? Qu'est-ce que ça a permis de faire d'autre, de mieux, de travailler à deux sur cette activité-là ? Est-ce que c'était simplement parce que le maître surnuméraire était plus compétent ? Et que donc lui, il savait faire et qu'il a expliqué à l'autre qu'il savait moins bien faire. Ce qui, au passage, est déjà une très bonne idée. Mais est-ce que c'est seulement ça ? C'est-à-dire, à quel moment, là, on pourrait prendre d'autres critères, à quel moment, par exemple, le fait d'avoir travaillé à deux nous a permis de mieux théoriser la démarche de production écrite en pensant que, comme on savait le faire quand on faisait de la dictée à l'adulte en grande section de maternelle, comme on peut savoir le faire en cours préparatoire, il y a des moments où on est en train de discuter avec les enfants sur l'intention d'écriture, son but, le destinataire. C'est pas la même chose que le moment où, une fois qu'on est au clair avec ce qu'on est en train de produire, on choisit les idées de ce qu'on est en train de faire. Là, on pourrait faire référence à une des vidéos que Patrick a mis en ligne dans le dispositif plus de maîtres que de classe, celle qu'il a tournée avec l'équipe de CE2 dans le réseau des Mureaux avec André Ouzoulias. À quel moment, s'étant mis d'accord sur les idées, on va négocier la mise en mots, la manière dont on va dire ce dont on a convenu? À quel moment on est en train de travailler sur la transcription de ce qu'on vient de choisir d'énoncer, à quel moment on va penser la fabrication, l'édition, parce que si on a écrit, on a écrit pour quelqu'un, et il faut bien le mettre dans la forme adéquate à cette édition, voir si c'était destiné à produire un effet sur ce quelqu'un, Si on a une vision de l'activité d'écriture autour de ces différentes opérations, alors oui, le travail de la diade est très souvent un travail de clarification de « mais au fond, qu'est-ce que c'est la priorité à ce moment-là ? Sur quoi on met l'accent ? Et est-ce que c'est raisonnable de vouloir travailler sur toutes ces étapes, tout le temps, simultanément, avec tous les élèves ?» Voilà. Et dès qu'on rentre dans cette logique-là, qui est un simple éclaircissement des deux qui collaborent pour concevoir. Et là, on voit bien que c'est le travail de conception, hein, qui est le travail le plus formateur, si vous voulez, dans la dyade. Alors à ce moment-là, on peut se dire, eh ben cette étape-là, on va la gérer de telle manière, par exemple en étant co-présent, jusque à l'énoncé, parce que là, il faut qu'on se mette d'accord sur les énoncés, mais au moment où on bascule vers la transcription de ce qu'on a choisi collectivement de fixer, alors on sait très bien qu'il faut des interactions extrêmement individualisées, et là, il faut absolument redescendre vers le plus petit effectif possible, et d'ailleurs, peut-être pas 2 sous-groupes de 12, mais 3 sous-groupes de 8, et on travaillera 1 en autonomie, 2 avec chacun d'entre nous, etc., etc. C'est-à-dire que à chaque fois, il me semble qu'on arrive sur cette même conclusion, c'est que le choix de la forme pédagogique, dyade, tandem, etc., je vous refais pas la typologie qu'on voit partout, elle est en fait pertinente ou pas pertinente à l'objectif poursuivi, une fois qu'on s'est rééclairci les idées sur ce sur quoi on mettait l'accent en termes d'objectifs pédagogiques et didactiques. Didactique. Et le besoin d'émettre, il est là, massivement, mais vous l'avez déjà dit plusieurs fois dans cette journée, je ne fais que le répéter, c'est quand on rentre dans une professionnalité plus fine, on achoppe sur des questions de mise en œuvre qui sont des questions complexes, hein. Production de texte, c'est pas trivial, hein. Et à ce moment-là, oui, on a besoin d'accompagner les équipes, et la première proposition que je ferai, c'est cet accompagnement didactique avec des outils un peu macro qui aident à raisonner, qui aide à raisonner des problèmes qui sont en fait toujours les mêmes et qui, quand on les découpe comme ça dans une perspective didactique, permettent d'articuler la question de alors comment on s'y prend à deux, à quel moment on doit être ensemble, à quel moment on peut être dans deux salles différentes, à quel moment il y en a un qui est devant et un autre qui tourne, à quel moment c'est une aide ponctuelle, à quel moment. Il me semble que chaque fois, les réponses, on les a assez simplement quand on les articule entre l'organisation et l'objectif didactique. Dès qu'on se dit on va se mettre d'accord sur l'organisation, et une fois qu'on aura l'organisation, on verra ce qu'on travaille comme compétence, on passe à côté. Il me semble que dans toutes les observations, il y a ce constat qui revient très fort. Voilà, ça c'était le premier point. La deuxième idée sur laquelle je voulais revenir, c'est cette idée que, au fond, le travail d'accompagnement, c'est un travail qui passe beaucoup, je crois, par de l'observation de la pratique des maîtres. Que ce soit le maître surnuméraire avec le maître titulaire, qui ont besoin de s'observer réciproquement, de manière plus ou moins confiante, ça c'est une autre question, mais il y a quand même de ça, ou, et c'est surtout ça le travail qui est le vôtre, les gens qui sont présents ici, les conseillers pédagogiques, les IEN, dans quelque chose qui est aujourd'hui descendre, redescendre, disait quelqu'un, de plus en plus dans la classe, avec les maîtres, les accompagner et raisonner avec eux les questions professionnelles. Moi, je crois que si ce dispositif plus de maîtres que de classe a des vertus, c'est notamment celle-là. C'est de reprendre le métier à bras-le-corps et de revenir sur des questions qui sont bien des questions, oui, de gestes professionnels. Mais alors là, une ou deux propositions, si vous voulez, de méthode générale. Moi, ma proposition de base, c'est on arrive à raisonner ces pratiques lorsqu'on les raisonne comme des choix, sous-entendu lorsqu'on est capable d'imaginer des alternatives. C'est-à-dire pour qu'il y ait choix, il faut qu'il y ait plusieurs manières de faire. Donc, l'idée, c'est d'enclencher une dynamique sur les choix qui était possible à ce moment-là, sur cet objet-là, avec ces élèves-là, c'est-à-dire avec les éléments contextuels. Donc, d'être dans la logique des alternatives. Et cette logique des alternatives, à condition de la garder dans un tableau à 4 cases, qui là est mis sur le tableau, mais qui, dans les dispositifs de formation continue que moi j'anime, devient un tableau, je viens un peu obsessionnel avec un truc aussi rustique que ça, mais qui finalement devient complètement intériorisé. Intériorisé par les acteurs eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire le tableau, il n'a plus besoin d'être là, il est dans la tête de chacun. Hein. Donc ça, c'est une technique de formation. Technique de formation, c'est quelqu'un fait comme si. En faisant comme ça, geste professionnel observé, numéro 1, que pense-t-il gagner ? Quels sont les avantages? Quel service ça lui rend à lui, maître? Quel service ça rend aux enfants dans leurs apprentissages, dans leur mise en activité, dans leur motivation, etc., etc. Et on documente. Voilà, voilà, c'est une question simple. Hein, c'est quand tu fais ça, qu'est-ce que tu penses que ça apporte? Sous-entendu, quand je te vois faire ça, qu'est-ce que moi aussi de l'extérieur je pense que ça apporte à toi ou aux élèves? Donc on y va, on documente la première case en haut à gauche sur les avantages. Sous-entendu, même si, comme une collègue le disait tout à l'heure, je suis pas sûr que c'est la bonne idée et je suis pas sûr que c'est comme ça que je ferai, il y a une posture de départ, à mon avis c'est celle-là qui construit la confiance, qui est une posture d'un postulat de cohérence. Si tu le fais, c'est que tu as des bonnes raisons de le faire. Tu as des bonnes raisons de faire ce que tu fais, tu as des bonnes raisons de penser ce que tu penses, tu as des bonnes raisons de dire ce que tu dis, et je le postule. Ça rassure, hein, ça quand même, comme base conversationnelle, comme base dialogique, comme base contractuelle. Donc, on cherche toutes les bonnes raisons de faire ainsi. Et au passage, le maître qui le fait, parce qu'il ne se pose plus la question, quand il est dans cette explicitation, puisque en fait c'est de cet ordre-là, ça peut être sur la base d'une vidéo, mais ça peut être sur la base de simplement un récit, ou ça peut être sur la base d'une remémoration de quelque chose qu'on vient de voir. Hein. C'est pas forcément à l'issue d'un travail sur vidéo. Toute la gamme est possible. Mais c'est le même mode de raisonnement. Et évidemment, très souvent, à ce moment-là, il y a une alternative qui se propose. Il y aurait eu une autre manière de faire, et très souvent cette alternative, elle est présentée avec des avantages, sous-entendu, qui répondent en creux aux inconvénients, aux lacunes, aux silences, aux points négatifs du choix professionnel initial. Ce qui suppose d'en dresser l'inventaire de manière tout aussi exigeante. Donc ça c'est la case en haut à droite. C'est si tu fais ça, oui mais... Tu laisses ça dans l'ombre. Ah oui, mais ça, je choisis de le laisser dans l'ombre. Je choisis de travailler sur la conversion des mots oraux en mots écrits. Mais alors, le choix des mots oraux, je m'en moque. Ça n'est pas mon objectif. Donc, j'assume le fait que c'est quelque chose que je ne travaille pas. D'accord ? C'est tout à fait autre chose. Et puis, il y a d'autres fois des questions qui sont posées comme des creux, comme des manques, en disant « Ah ouais, mais alors ça, j'ai jamais pensé. Tu crois que c'est important ? Quel rôle ça a dans l'apprentissage ultérieur ?» etc., etc. Et là, on s'explique. Du coup, l'alternative, très souvent, répond en creux, en bosse, si vous voulez, au creux du premier geste. C'est « Je ferai autrement parce que tu vois ce que tu as laissé dans l'ombre, là, on pourrait le travailler ainsi. » Ah oui, mais obligation d'aller documenter la quatrième case. C'est cette idée qu'il y aurait une solution qui serait la bonne et qu'elle aurait que des avantages alors que l'autre aurait massivement des inconvénients, ça tient à peu près pas du tout. Donc évidemment, on s'oblige à aller redocumenter ce qu'on perd si on passe du geste 1 au geste 2. Quoi. Et puis c'est tout, et puis on recommence. Et puis sur le fait de faire prendre une ardoise ou de faire écrire sur un cahier, même raisonnement. Qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que tu perds à les faire écrire ici sur une ardoise? Vous voyez? C'est-à-dire sur des gestes minuscules, comme sur à des organisateurs macro d'une construction didactique. C'est une méthode très rustique, mais assez tout-terrain, et qui finalement est un mode de discussion. Voilà. Moi, je le proposerais volontiers comme un mode d'échange entre professionnels. Pas agressif. Pas d'honneur de leçon. Et puis si on a une troisième alternative, on ouvre la troisième. Et on documente. Et là, moi je vois en formation continue, sur des situations, des maîtres, ils ont une ou deux idées. Et puis quand on creuse et qu'on est 10 à travailler, il y a 10 idées de manière de faire une chose qui répond à la même ambition, au même objectif, au même moment. Et là, on voit les gens prendre des notes sur les idées que leurs collègues sont en train de leur donner. Hein. Ils les ont pas vus travailler, c'était pas très coûteux, mais c'était la dynamique qui rendait ça possible. Évidemment, si on est sur une co-présence, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, nous, une des conclusions qu'on tire beaucoup de ça, c'est celui qui observe, il faut qu'il prenne des notes, et il faut qu'il prenne des notes sur le réalisé et pas sur ce qu'il pense du réalisé. Parce que ensuite, il va falloir, dans l'échange, reconstituer l'aspect factuel du déroulement. Or, Le maître qui fait la classe, il se souvient de ce à quoi il a fait attention, ce qui était dans sa focale, ce qui le préoccupait. Mais celui qui observe, il a pu voir des choses dont l'autre ne se souviendra pas parce qu'il ne les a pas encodées, il ne les a pas mémorisées, parce qu'à ce moment-là, ça n'était pas dans son horizon de préoccupation. Donc il va falloir, pour avancer, pouvoir remettre sur la table du factuel. Parce que sinon, c'est idéologie contre idéologie, c'est on n'a pas les mêmes conceptions. Mais évidemment, ça veut dire qu'à ce moment-là, le débat, il est bouclé, quoi, en gros. On arrive à échanger sur les conceptions quand on redescend sur le réalisé. Et qu'on dit, moi, quand je vois un élève dire ça, faire ça, quand je te vois dire ça, faire ça, ça me fait penser que... Et à ce moment-là, on va remonter. Donc oui, il peut y avoir une trace vidéo, bien sûr, mais il peut y avoir des traces plus légères. Et voilà, des traces plus légères qui peuvent être évidemment des traces de l'activité des élèves lorsque ce sont des traces écrites, mais beaucoup de ces choses-là ne laissent pas de traces dans les cahiers des élèves. Donc il faut quelqu'un qui observe avec évidemment un certain nombre déjà. Et c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une prise de notes sur des choses qui se passent que des commentaires, même si... On les note parce qu'on a déjà en tête les commentaires qu'on s'apprête à faire. Mais il va falloir, comment dire, reconstituer du factuel. Donc je poursuis sur la même idée avec un autre outil qu'on utilise de plus en plus. Là, les collègues qui sont en formation de formateurs sont en train de se l'approprier aussi. C'est un outil qui vient de la formation initiale, que moi j'ai rodé en formation initiale et que j'utilise de plus en plus en formation continue aussi. C'est la même logique, c'est comment aiguiser un regard qui soit construit autour d'un certain nombre de catégories générales, mais qui puisse se spécifier sur des objets didactiques particuliers, hein, puisque là, ça va pas être... Donc là, c'est pareil, je le mettrai en ligne. En fait, on le... Voilà. À l'expérience, et là, je peux rien... me faites pas dire, la recherche a montré que... Hein, la recherche, elle a rien montré du tout, là. Hein. C'est un dialogue de collègue à collègue. C'est un formateur qui parle à d'autres formateurs en disant, voilà quelques-unes de mes boîtes à outils de formateurs. Hein. C'est ça, dans la logique de la fin d'après-midi. Systématiquement, essayer de... Alors là, on peut être dans l'observation. Évidemment, on peut basculer ces outils vers de la planification aussi. Mais là, on est plutôt sur de l'observation. Donc, essayer systématiquement d'arriver à rendre compte de la manière dont ont été organisés, en fait, dans le temps. Puisque là, l'idée de base, et je vais y revenir demain, mais c'est que dans l'enseignement, la chose importante, c'est le temps. C'est à la fois notre ressource majeure et notre contrainte majeure. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on fait qui est dévastateur, nuisible pour les enfants. Franchement, il y a quelques actes pervers, mais quand il y a une intention de perversité, la plupart du temps, ce qu'on fait ne leur fait pas de mal. La plupart du temps, ce qu'on fait et qui est le plus discutable, c'est ce qui leur fait perdre beaucoup de temps par rapport au temps dont on dispose, c'est-à-dire est-ce que ce temps, il n'aurait pas été mieux employé à autre chose ? Moi, c'est comme ça que je vais raisonner du début à la fin. Hein. Et sur le maître plus, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte un temps de plus. Comment optimiser ce temps de travail qui devient un temps au service de l'activité des élèves ? Voilà. Avec ça, on va regarder le déroulement de la classe comme une suite ordonnée de tâches. Les tâches, c'est ce que le maître demande aux élèves de faire. D'accord ? Qu'ils soient en grand groupe, qu'ils soient en individuel, qu'ils soient en petit groupe, c'est une suite de sollicitations. Ça peut être des tâches très macro, très ouvertes, ça peut être des choses très petites, très serrées, mais c'est quelque chose qui est demandé par le maître. Et là, à chaque fois, en essayant de voir, pour moi, ce qui est un triptyque fondateur, qui n'est pas assez travaillé, c'est à quel moment on est plutôt devant des objectifs d'acquisition, de découverte, de compréhension d'un certain nombre de notions, à quel moment on est plutôt dans des objectifs de type mémorisation et de stabilisation, et à quel moment on est dans des objectifs de type transfert. Parce que l'hypothèse, c'est que la paire maître titulaire, maître surnuméraire, ne fonctionne pas de la même manière et n'a pas la même fécondité sur ces différentes valences-là. Et que justement, la répartition des rôles, il n'y a pas de raison qu'elle soit la même lorsqu'on est plutôt dans des phases d'exploration ou quand on est dans des phases de mémorisation où là, la densité, l'intensité va solliciter le maître surnuméraire dans un autre rôle, en tout cas les deux maîtres dans des rôles différents, ou les tâches de transfert. Les tâches de transfert avec un maître surnuméraire qui est dans des outils modulaires où il sort les gamins, c'est même pas la peine d'en parler. Vous disiez tout à l'heure, ça marchait pas parce que ce que je faisais, le maître ne le savait pas. Comment est-ce que lui, il va pouvoir tisser les liens de cette mémoire didactique-là. Donc, une décomposition et une analyse sur ces types de démarches, sur ces types de groupements. Beaucoup de réflexions, donc, sur le fait que la classe, c'est une suite ordonnée de tâches et que à décrire le décours de la séance comme une suite ordonnée de tâches, on se donne les moyens d'aller discuter les gestes professionnels dont je parlais tout à l'heure à une échelle temporelle viable qui est celle de la tâche, qui n'est pas du tout celle de la séance. Hein. C'est beaucoup plus fin que celle de la séance. C'est ce qui est à l'intérieur de la séance, une suite de tâches. Le deuxième élément, il est, lui, alors impossible à décrire autrement que de visu, qu'en étant là, c'est la nature des interactions. Hein. La partie de ping-pong qui va se jouer là, avec de l'oral, entre les enfants et le maître. Et là, évidemment, les théories de l'apprentissage vont nous être utiles. On sait bien qu'il y a un certain nombre d'apprentissages dont la qualité réside dans la densité des feedbacks adressés aux élèves. Tiens, au passage, ça c'est mon premier candidat. Demain je ferai une diapo de synthèse là-dessus. Mais premier candidat, à quoi ça sert d'avoir un maître de plus ? Ça sert à multiplier par deux les feedbacks adressés individuellement à chacun des élèves immédiatement après qu'ils aient pris le risque d'une production orale, d'une production graphique, d'une production motrice, d'une production... C'est pas trop dans les priorités, j'ai vu la motricité, mais bon. Voyez, un feedback immédiat. Vous savez très bien qu'il y a des apprentissages. Si vous faites un feedback immédiat suite à une erreur de déchiffrage, il est bénéfique. Si vous attendez que la phrase soit finie pour faire un commentaire sur comment il fallait déchiffrer, ça sert à rien. Voilà. Donc, on sait ça. On sait, j'allais dire, domaine d'activité par domaine d'activité, les apprentissages qui bénéficient le plus directement de cette immédiateté. Là, on voit bien que si on est dans une phase d'apprentissage qui repose sur des feedbacks, alors on a intérêt non pas à être à deux face au groupe, mais à être séparés pour densifier le nombre d'élèves qui vont bénéficier des feedbacks. Voilà, vous voyez le mode de raisonnement. Donc, traitement de l'erreur, type d'étayage, sollicitation du groupe, comment est-ce que ça se joue, comment est-ce que ça se fait dans l'observation, c'est une cible systématique. Troisième cible systématique, tout ce qui va être de l'ordre de, là aussi, les données les plus récentes sur les apprentissages, que ce soit issues des sciences d'éducation, de la psychologie cognitive, voire maintenant des neurosciences. Si vous écoutez les dernières connaissances de Stanislas Dehaene, il a trouvé les quatre piliers de la pédagogie, et dans les quatre piliers de la pédagogie, vous avez ce qu'il y a là-dedans, hein. Il savait pas que les pédagogues le savaient depuis 50 ans ou 100 ans. Ça, c'est juste une information qui manquait à Monsieur Dehaene. Mais sur le fond, ce que la neuroscience a mis en évidence, c'est une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, ça s'est fait. C'est une bonne nouvelle pour nous. C'est les élèves apprennent d'autant mieux qu'ils sont engagés dans les tâches. Ils apprennent d'autant mieux qu'ils sont motivés. Ils s'apprennent d'autant mieux que leur attention est orientée sur les bons objets. Du coup, c'est évidemment nos cibles d'observation. C'est dans quelle mesure les stratégies mises en œuvre par le maître ou les maîtres, et là, évidemment, la question du maître surnuméraire, sont des stratégies qui vont augmenter le degré d'engagement des élèves dans la tâche, parce que le temps, c'est bien beau, mais si c'est un temps flottant dans lequel, comme Suchot croit l'affirmer, là, franchement, c'est quand même pas sérieux, hein. Non, mais c'est pas sérieux de nous dire qu'aujourd'hui, on sait que les enfants, quand ils sont dans un enseignement collectif, sont attentifs 5% du temps. Parce que c'est ça, les publications de Suchot. D'accord ? Non, mais elle est en ligne depuis très longtemps. Le Monde en fait la dernière trouvaille pédagogique du moment. Les enfants n'ont plus que 7 minutes pour apprendre à lire par jour parce que, en fait, on les fait travailler en collectif et quand ils sont en collectif, le temps utile, c'est 5 à 7% de ce temps. Voilà. Donc, moi, je passe du temps dans les classes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse affirmer une chose pareille, chrono en main. Mais c'est un débat scientifique. Alors, on met cette question en débat scientifique. J'ai peur qu'on aille un peu vite sur les manières de conclure à partir de ce genre de résultats. Mais une fois qu'on a ça, on sait néanmoins, et ça c'est vrai, qu'il y a un rapport étroit entre la qualité des apprentissages et la densité de l'activité. Mais tout le monde ici sait ça par cœur depuis longtemps. Mais comment est-ce qu'on densifie la mobilisation des enfants? Est-ce qu'ils sont au boulot? Est-ce qu'ils sont pas au boulot? Est-ce qu'on est une classe à haute tension ou à basse tension? D'accord? Il y a des indicateurs. Quels sont les indicateurs? À quoi on le voit? Qu'est-ce qui nous permet de le savoir? Et comment ça se travaille? Voilà. Maintien et orientation de l'attention. Comment cette attention, elle est captée et soutenue sur le bon objet et pas distraite vers d'autres choses? Qu'est-ce qui, dans l'habillage de la situation, avait donné envie, mais qui fait qu'on part sur autre chose que ce qui est l'enjeu cognitif de la situation? Ce climat relationnel dont on parle finalement si peu et dont vous sembliez dire tout à l'heure que peut-être bien il était dans l'étude CP, j'ai peur qu'on arrive à l'idée que c'est le climat qui fait tout, mais quid de la clarté cognitive? Quid du fait que les enfants comprennent ce qu'ils sont en train de faire? Déjà, ils aient une idée claire de ce que ça sera réussir, ce qui n'est pas rien. Pourquoi est-ce qu'on leur demande ça? Sous-entendu, qu'est-ce que le fait de faire ça permet d'apprendre? Au passage, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'à tous les instants, c'est la bonne question. Je pense qu'il y a des tas de moments où on ne sait pas pourquoi, et ça n'empêche pas d'apprendre. Donc il faudra bien réfléchir à quel moment la question du sens de l'apprentissage est une question vitale et à quel moment elle est anecdotique et hors de portée, parce que didactiquement, s'ils savaient pourquoi, ils le sauraient déjà. Et éventuellement, ça me paraît beaucoup plus important, est-ce qu'ils ont une idée claire de comment ils peuvent s'y prendre pour réaliser ce qu'on est en train de leur demander? Est-ce qu'on leur a donné les règles du jeu et notamment les règles procédurales? Et cinquième rubrique, y a-t-il dans ce dispositif-là des modalités de différenciation? Et évidemment, est-ce qu'à ce moment-là, elles portent sur des tâches parce que tous ne font pas la même chose? Ou est-ce que, à tâche inchangée, c'est les modalités d'étayage? Et là, évidemment, c'est beaucoup ça le débat avec le maître surnuméraire. C'est quand on est dans une logique de groupe de besoins et quand on est dans une logique de différenciation, c'est à quel moment c'est la même chose mais avec une aide différente? Ou est-ce que c'est un changement de tâche parce qu'il y a une compétence requise qui n'est pas disponible et qu'il faut revenir peut-être en arrière par rapport à ce qui était une planification, parce que si on ne paye pas le prix à ce moment-là, la carence sera trop forte et jamais vous la rattraperez. Elle fera obstacle à très court terme. Et à ce moment-là, on peut se poser la question de est-ce qu'on a plutôt intérêt à le faire en groupe homogène ou hétérogène? Mais sur toutes ces questions, pour moi, tout est ouvert. L'idée que ça serait bien qu'il soit hétérogène ou que ça serait bien qu'il soit homogène, il n'y a pas la réponse. C'est ça dépend si c'est adéquat ou pas adéquat à l'objectif poursuivi à ce moment-là. Et ça nous oblige à sortir d'un certain nombre de dogmatismes sur des choses convenues. On sait bien, il est bon de... Non, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout si on ne le redescend pas à l'échelle quasiment de la tâche, quoi. Voilà. Donc ça, c'est fini là. Et j'arrête vraiment là. Ça, c'était deux propositions de modalités d'accompagnement à travers quelque chose qui serait une réflexion sur l'activité, le réel de l'activité, et notamment une activité observée, ou en tout cas largement décrite.